Vous écoutez un podcast Top Music.
Top Music, premier sur la région. Top Music. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
Avec Aviation Sans Frontières, j'ai trouvé le moyen de faire parler d'une autre aviation. L'aviation humanitaire, beaucoup de gens l'ont découvert et je leur dis, écoutez, vous travaillez dans l'aéronautique, vous vivez bien parce que c'est des bons jobs, bah, c'est le moment de renvoyer l'ascenseur. On a fait le calcul il n'y a pas longtemps, il y a 600 associations et ONG qui font appel à nous. J'étais le directeur de campagne de deux personnes qui m'ont marqué. Un des directeurs de campagne de Coluche. Et la deuxième personne, c'est Nicolas Hulot. Alors là, c'était un peu plus sérieux. Être utile, c'est quelque chose où on peut se regarder dans la glace le soir.
À l'honneur sur le podium, Gérard Felzer, le président d'Aviation Sans Frontières, une ONG qui transporte des personnes et du fret humanitaire pour venir en aide aux plus démunis dans le monde. Accompagner des enfants malades, des réfugiés, initier les personnes en situation de handicap à l'aviation, les missions sont nombreuses et les ailes de l'humanitaire ne cessent de se déployer sous la houlette de cet homme infatigable. Pilote, ingénieur, aventurier, entrepreneur, chroniqueur, à bord de son vaisseau spatial, la Terre, il court, il vole, il s'agite pour que le monde bouge en faveur des plus démunis. Il va sans doute nous transporter. Bonjour Gérard et merci beaucoup d'avoir sauté sur ton vélo que tu as crevé entre-temps pour me rejoindre chez Mécénat Chirurgie Cardiaque et enregistrer ce podcast. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui te fait courir ? Depuis ta naissance ?
Plein de choses me font courir. Alors, je vais commencer par la fin, mais on a toujours une origine qui nous motive quelque part. Moi, j'ai vécu dans une banlieue ouvrière, j'ai pas le bac. J'ai rencontré un pote comme quoi la vie, elle est faite de rencontres, il faut saisir la chance. Il me dit, il y a une école d'ingénieur qui prend son bac. Alors, j'ai fait l'école d'ingénieur. J'ai racheté l'école, c'est plus facile pour avoir le diplôme. Enfin bon, ça, c'est la parenthèse. Et avec cette école qui s'appelle l'Estaca, qui est assez reconnue aujourd'hui, eh bien... Elle est toujours propriétaire ou propriété des anciens élèves, dont je suis. Ça m'a permis de faire l'école de pilote. Voilà, donc des chances comme ça qui passent et puis on prend le train en route et c'est formidable. Et j'ai connu ce monde de l'aviation qui est une famille en fait. Et depuis que l'aviation est née, il y a plus de 100 ans, ça continue aujourd'hui. Et avec Aviation Sans Frontières, j'ai trouvé le moyen de faire parler d'une autre aviation. C'est ce qu'on a vu au dernier salon du Bourget, là. On a présenté Aviation Sans Frontières, qui est une troisième voie entre l'aviation commerciale, où on vend des avions, et il est là pour ça, ce salon, et puis l'aviation militaire, malheureusement. Et ben, l'aviation humanitaire, beaucoup de gens l'ont découvert. Et je leur dis, écoutez, vous travaillez dans l'aéronautique, vous vivez bien parce que c'est des bons jobs, c'est le moment de renvoyer l'ascenseur. Et renvoyer l'ascenseur, c'est pour l'aviation utile, durable. C'est ce qu'on fait avec Aviation Sans Frontières.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en l'occurrence pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, transporter ces petits-enfants malades et les ramener ensuite chez eux guéris. C'est quoi encore ? C'est transporter alors, des médicaments ?
Oui, alors on a plusieurs missions, évidemment. Moi, il y a 40 ans, j'étais au début d'Aviation Sans Frontières. J'avais des petites missions sur les tout petits avions en pleine brousse pour aller au secours des réfugiés, notamment aux frontières somaliennes et Éthiopie. Il y avait 1 million de réfugiés. Et quand on assiste à une mère qui étouffe un enfant pour sauver l'autre, on ne peut pas avoir pire. Eh ben, on dit c'est juste pas possible, quoi. Il faut faire quelque chose. C'est ce que vous faites, c'est ce qu'on fait. Et on s'est bien rencontrés, puisque les enfants malades qui sont accompagnés par les gens de chez nous qui sont de la famille aéronautique, la boucle est bouclée, c'est quelque chose de formidable. J'ai fait un convoyage avec un enfant et j'en avais les larmes aux yeux, quoi.
Alors, un convoyage, ça veut dire que vous allez prendre l'avion. Donc, c'est quoi? C'est du personnel navigant ?
Alors, personnel navigant ou pas, mais qui bénéficie de billets gratuits ou quasi gratuits.
D'accord.
Pour pouvoir faire en sorte que le voyage ne coûte pas trop cher aux familles et à votre association. Donc
c'est un accompagnant qui prend sur son temps de travail, qui est qui est quoi, chez Air France en général
Beaucoup ou ailleurs, Air France, dans beaucoup de compagnies. Dans toute la... dans toute la communauté aéronautique, c'est une famille qui se met au service d'eux. Et donner son temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Donc
voilà, ils donnent leur temps, c'est-à-dire qu'ils vont faire un voyage aller-retour.
Oui.
Pour accompagner un enfant malade, par exemple.
Absolument.
Ou un réfugié, ou un adulte malade. Vous ne transportez pas que des enfants.
Oui, là, avec chirurgie cardiaque, c'est que des enfants.
Ouais.
Et on forme, grâce à vous aussi et vos conseils, on forme le personnel, parce que ce n'est pas évident, comment l'enfant va se comporter, etc. Et puis, on a eu, en beaucoup d'années, heureusement très peu, mais quand même, un ou deux décès. Parce que ça n'avait pas été diagnostiqué peut-être au départ, ou il y avait un événement particulier d'autre part, mais beaucoup d'émotions. Donc il faut former les gens, c'est ce qu'on fait, et il y a un attachement qui se fait. C'est très difficile, même si c'est pour une nuit, ils ont du mal après. Alors quand on les ramène chez eux, alors là c'est la fête, c'est formidable, il y a tout le village qui est là. Bon, j'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle, parce que c'est quelque chose de très beau, quoi.
Alors, ces gens, ces bénévoles qui prennent l'avion avec des enfants ou oui. d'autres personnes en difficulté, on va dire, ils voyagent sur une ligne classique.
Alors oui, alors on utilise les compagnies aériennes, elles ont donné leur accord, donc on peut aller chercher des enfants dans le monde entier. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui, et y compris pour des destinations lointaines où il faut faire des changements, etc. Donc voilà, c'est le savoir-faire de anciens ou salariés de compagnies aériennes qui connaissent le boulot et savent chez qui aller pour obtenir des billets sinon gratuits dans de bonnes conditions.
D'accord. Et vous avez également des avions.
Alors, on a nos avions.
Vous-même, vous êtes pilote, Gérard.
Alors moi,
vous
j'étais 30 ans pilote à Air France, absolument. Donc, 30 ans, c'est 20 000 heures de vol, 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul. C'est comme ça qu'on devient...
l'empreinte carbone.
Voilà, c'est comme ça qu'on devient schizophrène, passionné d'avion et en même temps un peu écolo. J'étais élu écolo avec Nicolas Hulot. Et donc, on essaie de faire en sorte qu'on puisse compenser. C'est ce que vous faites, vous. Vous compensez votre carbone pour les voyages et... La boucle est bouclée aussi parce que on a des enjeux, des fins de mois difficiles pour certains, mais aussi des fins de vie pour d'autres. Il faut faire attention à ce qu'on fait. On peut faire de l'humanitaire et être respectueux de l'environnement.
Ouais,
c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Alors, on a nos propres avions. Ce sont des avions de 12 places, des Cessna Caravane, et on se pose dans les rues des villages, dans les villages, dans des chemins, là où il n'y a pas forcément d'aéroport, pour être au plus près des populations. Et on a des pilotes formidables parce que ce n'est pas du tout évident.
Ah oui.
Si vous allez voir sur notre site, vous verrez les difficultés d'atterrissage. On fait d'abord un passage pour éloigner les animaux, et puis etc. etc. Et puis on est dans les pays en guerre. On est en RDC, en RCA. En RCA, on vient de quitter momentanément la Centrafrique parce qu'il y a les Wagner qui commencent à être chatouilleux. Et donc, ça ajoute à nos difficultés. Et j'ai pas envie que nos pilotes en soient les victimes. Donc, des pilotes formidables. Et quand ils rentrent...
qui eux aussi sont bénévoles, là, pour le coup.
Totalement bénévoles. Et donc, on se débrouille pour avoir des voyages le moins cher possible. Alors, c'est l'ONU, le fonds mondial qui nous affrète nos avions, plus des ONG comme Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, etc., qui viennent emprunter nos avions à partir de la RDC ou de la RCA. Et notre rêve aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin, c'est de faire l'acquisition d'un avion hôpital pour aller soigner les gens directement près de leur village. Alors plutôt un avion dispensaire, c'est-à-dire un avion dans lequel on a aménagé du scanner, etc., un laboratoire sanguin pour pouvoir diagnostiquer et soigner et puis faire toutes les petites étapes. On est à peu près, entre ces deux pays où on a à peu près 40 à 50 destinations possibles. Donc, être au plus près des gens. Et puis, on travaille à un projet qui nous fait rêver. C'est un énorme dirigeable d'une société française qui construit ce dirigeable en ce moment qui s'appelle Flying Whales, la baleine volante, qui livre des hôpitaux clés en main. Et 60 tonnes, donc on peut là aussi...
De médicaments, de matériel, de...
Carrément de salles d'opération.
De salles d'opération, ouais, d'accord.
Donc pour intervenir avec des médecins bénévoles que nous on transportera par avion. Et donc on se servira de votre réseau. Je suis sûr qu'on pourra faire des belles choses, belles perspectives ensemble.
Alors, pourquoi l'humanitaire? Qu'est-ce qui vous attire? Donc, vous étiez pilote, vous êtes ingénieur,
oui.
Vous avez racheté une école,
oui.
vous êtes chroniqueur sur France Info. Pourquoi l'humanitaire?
Alors, l'humanitaire, parce que moi, j'ai eu une enfance un petit peu particulière. J'ai pas connu mon père, j'avais 6 mois, il est mort dans la résistance. Donc, c'était un peu un héros quelque part. Et puis, la vie dans les banlieues, ben, je connais un peu. Un jour, il y a un gars qui m'a tendu la main et il m'a dit, tiens, il y a une école d'ingénieur, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc, j'ai saisi l'occasion et moi, à mon tour, aujourd'hui, j'avais envie de tendre la main à des gamins qui en avaient besoin alors. Et on a monté, il y a 3 ans, quand je suis arrivé à Aviation Sans Frontières comme président, des chantiers de formation insertion pour les jeunes des banlieues. On leur fait construire un petit avion sur lequel ils volent. Ça donne un beau fil conducteur.
Ils apprennent à voler, à piloter.
Alors, pas forcément, mais ils construisent l'avion. Et le fait de voler dessus, c'est du risque parce que il faut que ce soit sérieux, c'est encadré par nos bénévoles. On trouve des bénévoles ingénieurs, etc., pilotes, et on les remotive. Ils sont en rupture scolaire, sociale, familiale souvent. Et c'est bien beau d'aller soigner des gens à 10 000 kilomètres, mais des fois au coin de la rue, on en a besoin aussi.
C'est vrai.
Donc on est à Toulouse, à Marseille, à Gennevilliers bientôt. Et on essaye de diffuser quelque chose qui les motive, qui les raccroche à la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, pour anecdote, je fais le premier vol avec eux. Alors, je dis, bon, voilà.
Donc, vous pilotez toujours?
Oui, des petits avions maintenant, oui. Et je leur dis, voilà, premier vol, qui veut venir avec moi? Alors, tout le monde, moi. Alors, je dis, attendez, dans la vraie vie, ça s'appelle contrôle qualité. Donc, on va faire le tour de l'avion. Et là, vous voyez, là, il manque une goupille, on est mort. Là, l'hélice, elle est à l'envers, etc., etc. Puis je leur dis, écoutez, on n'a qu'une vie, alors on y va quand même, on a des parachutes. Alors, qui veut venir?
Ah, plus personne.
Et donc là, je dis, bon, on démonte totalement l'avion et on le remonte. C'est une exigence, ça fait mal au cœur, mais c'est la seule façon. Et dans la vie, c'est pareil. Donc, ça marque les enfants. Depuis que j'ai inauguré ce genre de chantier de formation insertion, probablement dû à mes origines, j'ai un père qui est né à Kiev, une mère qui est née à Moscou, ça marque. Quelque
ah oui,
part,
ça c'est sûr.
Surtout quand c'est pendant la guerre. Et donc, on arrive à trouver sa voie comme ça. C'est, la générosité, elle vient de là. C'est vouloir rendre la monnaie de sa pièce. C'est mon leitmotiv aujourd'hui.
Mais ça, c'est pas que dans le cadre d'Aviation Sans Frontières. C'est à part. Ou bien
c'est ça fait complètement toujours Aviation, partie sans, frontières.
Aviation sans Frontières.
C'est
d'accord.
La famille aéronautique qui
d'accord.
se met à notre service pour dire bah, je vais donner des cours, je vais faire voler,
d'accord.
etc.
D'accord.
Je prends sous la main, je parraine des enfants ou des jeunes. Et on fait ça avec des centres de formation des apprentis. Et c'est quelque chose de formidable. On fait un peu le même genre de choses en offrant des journées d'évasion pour les enfants qui sont hospitalisés. Et sur de la longue durée. Donc, ils sont dans un univers extrêmement triste. Donc, on les sort de l'hôpital, on leur donne un baptême de l'air, on leur fait des fêtes, il y a des clowns, etc., pour qu'ils s'accrochent à la vie, tout simplement. Mmh. Ça marche bien. Il y a Clint Eastwood qui fait ça aux États-Unis. Il y a quelques années, il m'avait dit « Si tu dépenses $1, je t'en file un supplémentaire pour faire ce genre de choses parce que c'est de l'espoir. » Et donc, Aviation Sans Frontières, c'est ça aussi. C'est jouer la proximité aussi bien que l'éloignement.
Ça fait combien de temps que vous êtes président de cette association?
Ça fait 2019, donc ça va faire 4 ans bientôt.
Et donc aujourd'hui, c'est une association d'utilité publique?
Oui, absolument.
Qui reçoit des dons?
Alors, qui reçoit des dons, on vit sur les dons.
Ouais.
On a un budget qui n'est pas très important, mais quand même. On a 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, si on peut appeler ça comme ça, dont la moitié est pour l'aviation légère, nos avions qui sont en Afrique, l'autre moitié, les autres activités dont j'ai décrit un petit bout. Et puis, il y a une activité importante, c'est le fret humanitaire et le colisage. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des bénévoles qui remplissent des cartons de 10 kilos et qui emmènent dans les soutes des avions. Et on est capable, on est la postale de l'humanitaire, en gros, quelque part, ou le FedEx de l'humanitaire, et là, on est capable de délivrer dans les 24 heures des colis un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est très utile avec les ONG. En gros, on a fait le calcul il n'y a pas longtemps, il y a 600 associations et ONG qui font appel à nous.
Ah oui?
Pour toutes les activités.
Vous êtes l'ONG des ONG?
On est l'ONG au service des ONG.
Au service des ONG.
C'est plutôt ça, parce
ouais.
qu'on n'est pas sur le terrain, on les amène. Et puis, il y a quelque chose d'émouvant. Moi, J'ai fait le Mozambique, la Somalie, le Honduras, amener des équipes de Médecins Sans Frontières avec un personnel inouï, quoi. Je veux dire, c'est la générosité même. Et ça, ça fait plaisir.
Alors, comment on devient bénévole chez Aviation Sans Frontières?
Eh ben, on s'inscrit sur le site.
Il faut forcément faire partie du monde de l'aviation?
Non, pas du tout. Il y a des infirmières, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont envie d'accompagner un enfant un jour. C'est une belle expérience à avoir. Et puis, il y a l'organisation de communication. C'est vous comme nous, on communique pour pouvoir exister. On a besoin des dons, on a besoin des adhésions. Et donc, on organise des événements. Le prochain sera sur le Grand Rex, au Grand Rex, le 4 octobre, avec des vedettes, avec un orchestre symphonique, etc.
Pour donc récolter des fonds.
Pour récolter des fonds. Et puis on...
Et vous avez un parrain prestigieux.
Oui, voilà. Il y a Thomas Pesquet qui sera là, d'ailleurs, et qui va nous offrir les droits d'auteur d'un nouveau livre qui sort pour les enfants. Et du coup, on boucle la boucle avec vos enfants, les enfants qu'on parraine, les enfants qu'on amène. Ça peut être une très belle histoire.
Alors, vous, Gérard,
oui.
Vous êtes arrivé là parce que vous étiez passionné d'aviation, parce que vous étiez aussi ingénieur. Alors, tout ce qui est autour du chroniqueur, de l'entrepreneur,
alors,
ça se passe
comment ? Quand je suis parti à la retraite d'Air France, eh bien, je suis devenu directeur du musée de l'air au Bourget et je l'ai rendu gratuit. On est dans le 93.
C'était payant ?
Et c'était payant, il n'y a aucune raison, il faut leur offrir aux gens du coin ici qui sont déjà en difficulté qu'on leur offre une journée d'évasion gratuite. C'est ce que j'ai fait et j'ai même lancé un des premiers chantiers, ce qu'on appelle les ailes de l'avenir, chantier formation insertion dans le cadre du musée de l'air. C'était formidable ça. Et puis après le musée de l'air, pendant le musée de l'air, on m'a appelé souvent dans les radios, et notamment France Info, et ils m'ont donné l'occasion d'avoir une chronique. Et ça fait 12 ans, j'ai interviewé 1000 personnes, 1000 chroniques, et ça a été un beau moment d'une deuxième vie que je connaissais pas.
Et pourquoi ils ont fait appel à vous ?
Parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident d'avion, eh ben on me fait appel. On dit, Gérard, il y a un accident, viens nous expliquer ce qui s'est passé.
D'accord.
Donc à force, apparemment, les explications que j'ai données, elles avaient l'air de plaire. Donc voilà, ils m'ont dit, écoute, t'as ta chronique. Non pas sur l'aviation, ou pas que l'aviation, mais sur l'ensemble des transports. Et c'est pour ça, ça s'appelait « Transportez-moi ». Voilà, et en gros, une vie bien remplie. Puis maintenant, avec Aviation Sans Frontières, je m'y consacre à 100%. Maintenant, j'ai arrêté la radio. Je ne le fais que dans les cas exceptionnels, parce que les chroniques, ça bouffe. Hein. Ça me prenait 2-3 jours par semaine quand même.
Et la politique ?
Alors, la politique, j'étais le directeur de campagne de deux personnes qui m'ont marqué. Un des directeurs de campagne de Coluche, en 81, et je suis très fier d'un slogan qu'on a trouvé, la France est coupée en deux, on va la faire plier en quatre. J'ai trouvé ça sympa. Ça aboutit au Resto du Cœur, donc c'était quand même pas totalement inutile.
Vous avez été partie prenante du Resto du Cœur ?
Dans ce cadre-là, oui. Ouais. Coluche était quelqu'un. Moi, j'étais très proche de Charlie Hebdo à l'époque, avec Reiser, avec Cabu, etc. Et donc, on était tous embarqués sur le même bateau derrière Coluche pour ça. Et la deuxième personne, c'est Nicolas Hulot. Alors là, c'était un peu plus sérieux sur l'environnement. J'étais son directeur de campagne. Et donc, j'ai flirté avec la politique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est transpartidaire. L'environnement, c'est quelque chose qui n'a pas de parti, tout comme l'humanitaire.
Alors aujourd'hui, l'environnement, qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, on est sur une pente descendante concernant l'environnement. Je crois que les gens commencent à prendre conscience de l'importance du respect de l'environnement, du développement durable, parce que il nous arrive des cyclones, des catastrophes, le réchauffement, les incendies. Il va falloir être beaucoup plus raisonnable que ce que nous sommes aujourd'hui, puis se poser des vraies questions. L'avenir de la Terre, cette belle boule bleue qui n'a pas de plan B, et puis également sur la surpopulation. Il y a un moment, il faudra se demander, est-ce que la Terre est capable de supporter 11 milliards d'habitants, par exemple ? C'est pas sûr. Donc on arrive à des problèmes éthiques sur lesquels il faut réfléchir vite. On n'a plus le temps maintenant, c'est fini. S'occuper de l'environnement, comme vous le faites vous, en plus de votre vocation, amener les enfants, puisque vous plantez des arbres, c'est quelque chose de salvateur.
Oui, mais
cas, c'est indissociable.
On plante des arbres. Est-ce que j'ai envie de dire qu'on se donne aussi bonne conscience Si on veut faire quelque chose pour l'environnement,
ça peut être quelque
chose.
Il faut
peut-être faire plus, non ?
Oui, alors c'est vrai. Moi, j'ai fait le calcul. Quand vous prenez l'avion, vous émettez à peu près 30 litres par 100 km par personne, ce qui fait 90 kg de CO2. 90 kg de CO2, pardon, par 100 km. Eh bien, quand vous plantez un arbre, il absorbe à peu près 30 kg. Donc, en trois arbres, vous amortissez votre voyage en récupérant le carbone. Alors, c'est moyennement satisfaisant. Il faudrait en planter le double, je suis complètement d'accord. Pour prendre de l'avance, parce qu'un arbre, ça dure, ça peut durer 30 ans, 40 ans, et il absorbe entre 10 et 40 kg par an, donc c'est pas mal. C'est un bon début. Et puis le reste, c'est prêcher la bonne parole pour qu'on soit raisonnable. Quand je vois qu'on prend l'avion pour aller faire les soldes à Dubaï un week-end, je trouve que c'est pas tellement le sujet aujourd'hui, quoi. Mm-hmm. La surconsommation par rapport à ça. Le transport aérien est devenu un objet de consommation. Alors que un voyage par an pour aller voir différentes cultures, oui, pourquoi pas, c'est très bien.
Donc vous êtes plus sur la veine de Jean Covici?
Un petit peu, pas aussi catégorique, parce que limiter 4 voyages dans sa vie, ça me paraît difficile.
Surtout vous,
oui,
20 000 heures de vol.
Oui, ça c'est sûr que là, je pourrais plus le récupérer, mais proposer des solutions, en tous les cas, ne pas se fermer les yeux, oui.
Mais comment on fait pour que les, on va dire, la population, le plus grand nombre, se rende compte? C'est-à-dire se rendre compte de cette problématique écologique, mais se rendre compte aussi de cette problématique humanitaire.
Oui, alors c'est par l'exemple.
Parce qu'il n'y a pas un ministre de l'humanitaire, par exemple.
Non, il y a failli
y
avoir.
La solidarité, avec... etc., mais ce n'est pas pareil.
Il y a, avec Xavier Emmanuelli, ça a été un des premiers qui a créé le SAMU, et le SAMU social surtout.
Qui a été partie... président, non, de Aviation Sans Frontières?
Non, mais il était au conseil d'administration.
D'accord.
Quelqu'un de formidable, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que la prise de conscience, il y a un ministre de l'Environnement, mais il n'a que le nom, hein, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Sur l'humanitaire, il y a des choses qui se font dans les ministères. Moi, ce matin, j'ai été voir le ministre des Affaires étrangères. Il joue la solidarité, mais... quand on est ONG, c'est
donc non... là, vous avez remporté un appel d'offres ce matin.
On a rencontré un appel d'offres sur des drones humanitaires qu'on veut mettre en exergue, notamment au Congo, parce que les routes sont dangereuses. Et en plus, on a les Wagner qui nous harcèlent un petit peu en ce moment. Donc, la politique s'en mêle, c'est pas évident. Donc, ONG, c'est indépendant des gouvernements. Ça, c'est la raison d'être. Il faut être totalement neutre, sinon on n'arrivera pas, quoi. Mmh. On avait eu l'opportunité de faire défiler pour le 14 juillet un de nos avions.
Marqué Aviation Sans Frontières.
Ouais, ouais. Et puis on s'est dit, alors ça a été un grand débat, on dit est-ce qu'une fête nationale, un pays qui est engagé, avec l'armée qui défile, est-ce que c'est le rôle d'Aviation Sans Frontières?
Ouais.
Donc on y a renoncé, on va encore réfléchir, y mettre des conditions particulières, défiler peut-être avec des sapeurs-pompiers, je ne sais pas, mais en tous les cas...
Mais qui vous demande ça?
Ça a été une proposition d'un général qui était dans l'environnement du président pour savoir, chaque année, il présente quelque chose de nouveau, bah, ça aurait pu être ça.
D'accord.
Mais bon, c'est pas mûr encore. Donc, on se pose des questions éthiques tous les jours, d'ailleurs toutes les ONG. Hein. Et puis, on essaie de travailler ensemble par des passerelles. C'est pour ça qu'Aviation Sans Frontières, qui se met au service des autres ONG, ça nous élargit notre champ,
oui,
champ d'action.
Ouais.
Donc, nos rêves, parce qu'il faut avoir des rêves dans la vie, c'est le fret humanitaire avec des drones humanitaires pour aller livrer au plus près des médicaments d'urgence, par exemple.
Et par exemple, Amazon, ils ne pourraient pas vous aider?
Eux, ils sont à la recherche de rentabilité. Je ne pense pas que ce soit leur priorité en tous les cas. Mais c'est une bonne idée, je vais aller les voir. Hein. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Hein. Et bon, peut-être, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Mais peut-être que ça arrivera. Mon rêve, c'est avoir cet avion laboratoire. Un avion dans lequel seront équipés les instruments. Et ça, et la Fondation Mérieux à Lyon nous aide beaucoup là-dessus. Il y a une association qui s'appelle Alima qui est partie prenante. Et j'essaie de convaincre l'Europe et les affaires étrangères de participer à l'acquisition de cet avion qui pourra sauver beaucoup plus de vies, quoi. Et puis, le dirigeable, dirigeable clé en main pour livrer des hôpitaux clé en main par une société qui s'appelle Flying Wells et sur lequel on met ce qu'on appelait, nous, le Flying Care. C'est livrer des hôpitaux, hospitaliser les gens et puis le reprendre pour un autre endroit, etc. Et donc... ça n'arrête pas, malheureusement. Parce que
donc, en fait, vous avez des idées tout le temps.
Ben, si on prend pas de l'avance, on prend du retard. Donc, il faut être vigilant à ça, quoi. Et puis, se faire connaître. Moi, j'ai un vieux rêve, j'ai appelé ça Wings for Peace. C'est un petit avion piloté par des femmes, par deux femmes, parce que, pourquoi les femmes? Parce que c'est elles qui sont les premières victimes dans tous les conflits. Et on le voit bien à la frontière du Rwanda et de la RDC, des viols à n'en plus finir, quoi. Parce que c'est une arme de guerre. On viole, on avilit, on traumatise. Et c'est quelque chose d'épouvantable. Donc, on travaille avec le professeur Mukwege. Et donc, on essaye d'avoir les moyens de soigner les gens au plus près, quoi. Et puis, on fera appel à des ONG pour pouvoir développer. Je crois beaucoup au développement.
Et ces deux femmes qui vont
alors,
faire quoi?
Oui, alors les deux femmes, j'en reviens, pardon. Alors, c'est faire le tour de la Méditerranée.
D'accord.
Suivi ou précédé par un orchestre symphonique avec une dizaine ou une quinzaine de nationalités, des Chinois, des Russes, des Ukrainiens, etc. L'avion de la paix, hein, quelque part. Et puis faire un concert à chaque escale. Et les deux femmes qui pilotent, c'est des pilotes qui sont issus de communautés en guerre ou qui l'ont été. Une Irakienne, une Iranienne, une Israélienne, une Palestinienne, une Grecque, une Turque, etc., etc. Pour dire, ben, on est capable de voler ensemble, on est capable de faire mieux dans la vie. Et à chaque fois qu'on s'arrête au Caire, à Rome, à Alger, à Tunis, etc., il y a un concert caritatif avec des musiques locales accompagnées par nos musiciens symphoniques.
Que vous transportez à chaque fois d'étape en étape.
Voilà, ATR nous prête un avion, donc une cinquantaine de places. Bon, c'est un budget qui coûte cher, mais...
Justement, comment on finance ça?
Alors, des dons.
Des dons.
J'essaye de trouver quelqu'un, un mécène, qui pourrait au moins nous avancer la location de l'avion et l'organisation des concerts. Et puis... Il y a des gens qui nous ont déjà répondu, à Monaco par exemple, un concert qui peut nous rapporter 200-300 000 euros. Si on multiplie ça par 10, eh ben, on aura gagné, quoi.
C'est un puits sans fond.
C'est un puits sans fond, ouais, malheureusement. Mais en même temps, ça rapproche les gens dans le même objectif, c'est sympa. On se fait du bien en faisant du bien, non? C'est quelque chose
C'est vrai, c'est vrai. Alors vous, aujourd'hui, votre job, c'est quoi? C'est de courir après l'argent?
Oui, essentiellement, j'essaie de représenter Aviation sans frontières pour trouver les financements. On a calculé aussi l'équivalent en heures de travail de nos bénévoles. C'est considérable, hein. C'est au minimum 2 à 3 millions d'euros quand même, tout ce qu'ils donnent. On tourne sur 1000 bénévoles, c'est quand même pas mal, quoi. Et ça, c'est une vraie richesse, parce que donner son temps, c'est pas du tout évident.
Oui,
c'est évidemment, ça s'adresse surtout aux retraités.
Mais est-ce que ça ne s'adresse pas aussi surtout aux Parisiens, parce que vous êtes à Paris?
Non, alors on a des délégations régionales.
D'accord.
On est dans le sud-est, près d'Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille. Et chacun organise des événements en local.
Donc pour récolter des fonds?
Pour récolter des fonds et puis être utile aussi à quelque chose. Il y a beaucoup d'accompagnements d'enfants qui se font par ces gens qui viennent nous rejoindre à Paris. On fait les collectes de miles.
Ouais.
Dans les compagnies aériennes, ce qui nous permet là aussi d'acheter des billets pour ceux qui n'ont pas de billets gratuits. Par exemple, la délégation sud-est, elle organise les ailes du sourire, les gamins qu'on sort de l'hôpital pour leur offrir une journée d'évasion. Chacun fait ce qu'il peut dans les délégations et c'est bien, quoi.
Alors, vous pensez que c'est le rôle toujours d'ONG comme ça, de venir en aide aux plus démunis, ou que ça devrait, puisque vous avez touché à la politique, être une règle?
C'est vrai que l'ONU, l'UNESCO, ils font ce qu'ils peuvent.
Tout le monde fait ce qu'il peut, mais on a l'impression
que... Mais c'est jamais suffisant.
Voilà.
Donc, c'est vrai que la prise de conscience mondiale, à la fois sur la pauvreté, enfin, c'est quand même des millions d'enfants qui meurent de faim, quoi. Je veux dire, c'est impensable.
Non, mais c'est incroyable.
C'est révoltant.
C'est révoltant.
Ouais, ouais.
Mais on parlait backstage des médicaments qui sont jetés.
Oui, ça, c'est un projet.
Mais ça aussi, c'est révoltant.
C'est un projet que j'aimerais bien partager avec les ONG en disant, on met à la poubelle pas loin de 7 milliards d'euros de médicaments en état de validité. On a ouvert la boîte, des fois pour un ou deux comprimés. faisons voter une loi, parce qu'il y a une loi de 2008 qui interdit le recyclage des médicaments. Probablement du lobby des labos pharmaceutiques, mais en tous les cas, c'est une réalité. Et je pense que on est dans une période post-gâchis. On jette facilement. C'est vraiment pas un bon exemple, quoi. Donc, il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là.
Donc ça, c'est votre prochaine mission ?
C'est pas directement attaché à Aviation Sans Frontières, mais comme on transporte beaucoup de médicaments, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait, quoi, avant de les jeter.
Alors, comment vous allez grandir ? Comment vous allez faire en sorte qu'Aviation Sans Frontières soit de plus en plus connue ?
Alors, Aviation Sans Frontières, je vais vous donner un exemple. J'ai téléphoné au patron de FedEx, au fondateur de FedEx. Je lui ai dit, écoute, on a le même âge tous les deux, on est des vieux. Toi, t'étais pilote de chasse dans la guerre du Vietnam. Moi, j'étais à Air France. Voilà, je recherche à financer un avion. Est-ce que tu peux pas nous aider pour financer un avion ? Alors, il me dit, qu'est-ce que tu veux comme avion ? Je lui dis, un Cessna Caravane, c'est nos deux avions. On en aurait un troisième, ça serait bien. Alors, il me dit, je vais regarder. Je crois que j'en ai 250.
Oh, d'accord.
Donc, adorable et tout. Et il me rappelle et il me dit...
C'est un Américain ?
C'est un Américain, oui. Il vit à Phoenix. À Dallas, pardon. Et donc, il me téléphone et il me dit, écoute, j'ai regardé, on n'aide que des ONG ou des associations américaines. Je dis, que cela ne tienne, on va le faire. Et on a créé Aviation Sans Frontières États-Unis.
Excellent.
Et du coup, ça nous a donné l'idée de faire Aviation Sans Frontières Belgique, Danemark, Allemagne, et puis Espagne. On est maintenant 7 Aviation Sans Frontières internationales, comme fait Médecins Sans Frontières. Donc, on essaie de se développer à travers ça. Et Aviation Sans Frontières États-Unis, il y a une fille magnifique qui est pilote d'essai, ingénieure, qui a mis au point un caravane électrique et qui a les mêmes performances que les nôtres. Donc, on essaie de collaborer. Et du coup, on prend un coup d'avance en technologie, en environnement et puis en humanitaire pour être plus efficace. Donc, la boucle est bouclée. Mon petit rôle de pilote et d'ingénieur, il retrouve tout le bonheur de ce point de vue-là. Et puis, c'est un formidable moyen de rencontre comme la vôtre, Caroline.
C'est gentil. Et quand vous étiez pilote chez Air France, vous aviez déjà toutes ces idées en tête ou vous étiez
Alors oui, quand j'étais jeune pilote, jeune copilote, je suis arrivé à Air France. Aviation Sans Frontières venait d'être créée par 3 pilotes d'Air France. C'était suite à la guerre du Biafra. Bien avant Aviation Sans Frontières, on avait affrété des avions pour sauver des gens, etc. Et du coup, ça leur a donné l'idée de créer Aviation Sans Frontières sur la demande de Médecins Sans Frontières. Donc,
d'accord,
on s'est créé quasiment en même temps. Et du coup, j'étais les voir. Moi, j'étais un jeune. Je dis, est-ce que je peux être utile à quelque chose ? Le lendemain, je partais sur un petit avion pour la Somalie.
Donc, ça a commencé très tôt.
Ça a commencé
cette
très
vocation.
Tôt. Et puis, donc, voilà. Et puis, 40 ans sont passés. J'ai passé à autre chose et je suis revenu au bout de 40 ans. Et en disant, comme je suis en finale, je vais être utile.
Pendant les 40 ans, vous n'avez pas du tout été dans l'humanitaire ?
Oh, allez, on va dire 35 ans, quoi. Oui. Non, j'étais dans ailleurs, j'étais dans l'environnement, j'étais dans des choses...
Enfin, engagé quand même, toujours.
Oui, engagé, oui. Au service d'eux, en tous les cas.
Ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui aux jeunes ?
Alors,
aux
les jeunes
qui sont souvent assez sensibles justement au discours sur l'écologie, sur l'autre.
D'abord, c'est un engagement, écouter et puis tendre la main, quoi. Et puis aller se botter les fesses pour dire tiens, je vais frapper, je vais téléphoner, je vais regarder sur Internet où est-ce que je pourrais adhérer, là où je me trouverais bien. Il y a des tas d'ONG qui sont formidables. Électriciens Sans Frontières, par exemple. On ne soigne pas les gens, mais on leur apporte de l'énergie, on leur apporte de l'éclairage. Sans éclairage, la nuit tombée, c'est des viols. Donc, on peut être utile sur des choses qui sont plus ou moins éloignées. Il n'y a pas que des médecins et des infirmiers. Il y a aussi des gens qui sont autour, des administratifs. Être utile, c'est quelque chose où on peut se regarder dans la glace le soir. Quoi. On dit, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait par solidarité ? Il y a 2 ans, j'ai lancé une campagne. Et vous, que faites-vous par solidarité ? Alors, il y a Alain Souchon avec une grande photo. Moi, je fais ceci, je fais cela. Il y a Woolsey, il y a Artus Bertrand, etc. C'est leur faire prendre conscience. On a fait une campagne dans le métro en disant, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait de bien aujourd'hui ? Et là, on a fait la moitié du chemin.
Et alors, les gens répondent ?
Les gens répondent, ouais, il suffit de se solliciter, il suffit de sourire un peu et puis de dire, bon, il n'y a pas que McDo, j'ai rien contre McDo, mais dans la vie, il y a des préoccupations annexes, on peut être généreux quelquefois. Ça me rappelle, je faisais un vol sur Madagascar, j'étais commandant de bord, et puis dans l'avion, il y avait Mohamed Younous. Mohamed Younous, c'est celui qui a inventé le microcrédit, la Grameen Bank, une grosse banque où on prête à partir de 10 dollars. Il vient me voir dans le cockpit, je le fais venir, je lui dis, écoutez, j'ai votre bouquin, ça tombe bien, la Grameen Bank, bravo, quoi, prix Nobel. Alors, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire à Madagascar? Je dis, je vais me promener. Il me dit, mais non, c'est interdit. Tu vas être utile à quelque chose. Je dis, mais moi, je suis pas prix Nobel et je sais pas quoi faire. Et il me dit, c'est quoi l'animal emblématique à Madagascar? Je dis, le zébu. Le zébu, c'est une vache avec une bosse. Il me dit, voilà, t'achètes un zébu, tu le mets à disposition d'un paysan du coin et qui va te rembourser en microcrédit. Je dis, ça, c'est une belle idée. Donc, à peine arrivé à Madagascar, je vais chercher mon zébu, je le ramène à l'hôtel, il a chié partout. Et puis, je dis au concierge de l'hôtel, voilà, je te le prête, je te le loue 1 euro par jour. Avec ça, tu fais du lait, de la bouse, etc. Il m'a dit, je peux pas, c'est quasiment mon salaire. Alors, je dis, je t'achète 12 poules pondeuses et tu me donnes 2 œufs par jour. C'est équivalent à ça. C'est ce qu'on a fait. Au bout de 3 mois, j'avais 400 zébus. Aujourd'hui, on est à 20 000 familles dans le monde. Ça s'appelle Zébunet. C'est du microcrédit. Ça aussi, c'est de l'engagement qui est intéressant, quoi. C'est pas mal. Mettre le pied à l'étrier. Vous savez, il y a Lao Tse, il y a 2500 ans quand même, qui disait il vaut mieux allumer la chandelle que de maudire l'obscurité. Et je trouvais ça très beau parce que on peut toujours faire quelque chose, quoi. Et dans tous les domaines. Et là, c'est formidable parce que quand je vais voir mes paysans à Madagascar, au Vietnam, au Burkina, Niger, Mauritanie, etc., là où on est, au Togo, eh ben, on les remet dans le circuit. C'est plus de l'obol. On ne donne pas. On ne donne pas une pièce comme ça, comme la sortie de la messe.
On ne se débarrasse pas.
Oui, d'une part. Et puis, il y a l'autre proverbe. Il vaut mieux offrir une pêche à la ligne que le poisson. Donc, on leur offre la pêche à la ligne.
Ouais.
Et ça, c'est formidable. Et ça peut sauver beaucoup de choses. Et on fait un vrai contrat. On leur dit, voilà, tu nous dois tant, etc. Et ça marche. Ça marche bien. Ça s'appelle Zébunet. Zébu.net. Voilà. Mais il y a plein d'autres associations comme ça.
Donc, et le message, c'est quoi?
Message aux jeunes, engagez-vous. Engagez-vous dans n'importe quelle association. Autre chose que l'association des pétanqueurs, quoi. Mais des associations qui donnent du sens à sa vie.
Donner voilà. Du sens, c'est ça qui est important?
Ben oui, c'est important. Puis quand je vous regarde, je me dis qu'on donne du sens tous les deux, vous tous ici.
On essaye.
Ben oui.
Mais j'aimerais bien qu'on trouve effectivement un message pour convaincre un petit peu tout le monde que chacun peut être utile. Il ne faut pas juste regarder et juste se dire « Ah, c'est bien ce qu'ils font. »
Engagez-vous, engagez-vous, il disait dans l'armée.
Mais c'est ça.
Ben, allez-y. Pour les ONG comme la vôtre, elle est magnifique. Hein. Mécénat chirurgie cardiaque. Je regarde la photo derrière vous. Je trouve ça juste... ça n'a pas de nom, quoi. C'est bravo.
Non, mais ce qui est super, c'est des gens comme vous qui mettent toute leur énergie pour les autres. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça...
Oui,
et puis leur
temps...
énergie, leur intelligence aussi, parce que c'est créer d'autres idées, d'autres aspérités, d'autres moments de justement pour aider encore plus. Et comme vous le dites, pas toujours à l'étranger, aider chez nous aussi.
Ah ouais, au coin de la rue.
Chez nous, on a plein de problèmes.
Ouais.
Au lieu de les critiquer ou de les regarder à la télé, qu'est-ce qu'on fait pour
là,
que ça change?
On est au nord de Marseille, là où il se passe quand même des choses. Construire le petit avion, ça fait Radio Marseille, là, ça fait le tour. Et les gens viennent voir, tu vas voler là-dessus, mais tu n'as même pas ton certificat d'études. Ben non. Ça c'est quelque chose, c'est être utile par l'exemple aussi, hein. C'est intéressant de dire moi j'y arrive, pourquoi pas toi? Donc c'est bien, il faut donner de l'espoir aux gens aussi, hein. Et quand je vois dans les pays qu'on traverse, à Madagascar ils meurent de faim aujourd'hui, c'est une île qui a tout, qui a du sous-sol très riche, ils se font piller d'une manière éhontée et en plus ils meurent de faim, donc c'est juste pas possible, quoi. Donc, c'est être militant aussi, si on veut s'engager dans la politique, en disant, attendez les gars, il y a des choses à faire autour de nous, et puis la solidarité internationale, ça existe aussi, quoi.
Mais vous voyez, la politique, aujourd'hui, on assiste à un système où, si on n'est pas politique et politisé, on dégage.
Oui, souvent, ça marche comme ça. Les médias ne se réveille quand il y a ou un scandale à la clé ou une catastrophe.
Exactement. Bah sinon, ça fait pas recette.
Ça fait pas vendre, ouais, c'est vrai. Plus on sera nombreux en disant eh bien, j'allumerai la radio éthique.
Ouais.
Ça peut faire bouger. Parce que là, on touche au porte-monnaie. Alors là, il faut employer les mêmes armes, si j'ose dire. Les armes pacifiques, mais toucher au porte-monnaie, on peut aller loin, quoi. Si un énergéticien, je ne donnerai pas de nom, continue à faire de l'exploration pétrolière, il faudrait exiger de sa part qu'il investisse dans l'énergie durable, par exemple. Ouais. Et à ce moment-là, on choisit
sa contrepartie.
On choisit sa pompe à essence en fonction. Ça marche très bien en Californie, ça, avec les jeunes en Californie, en disant nous, on achète que là où c'est éthique. Ça, c'est un mouvement qui a pris naissance quand il y a eu Nike qui faisait fabriquer ses ballons de foot par les gamins en Asie. Mmh. Du jour au lendemain, les gens n'ont plus acheté Nike. La réponse est faite très, très rapidement. Hein. Et ça, c'est un levier formidable.
Ouais.
On peut le faire. Il faut le faire. Il y a un gars qui a écrit un bouquin, c'est Révoltez-vous, là. Je ne me souviens plus de son nom. Il faut se réveiller. Voir les yeux grands ouverts.
C'est le wokisme ?
Oui, je ne sais pas, ça. Ça se discute. J'en sais rien du tout. Il faut. Nous, notre phrase, c'est au-dessus des nuages, il y a toujours du soleil, parce qu'on veut être optimiste. Et puis, ce qui est vrai, hein, parce que quand on pilote un avion, on monte, puis au bout d'un moment, on a le ciel bleu. C'est une belle rhétorique pour tout ce qu'on fait ensemble. Nous, Francine disait, on n'existerait pas si vous n'aviez pas été là, Aviation sans frontières. Moi, je lui renvoie à l'ascenseur. Je dis, si vous n'étiez pas
là... Donc, Francine Leca, la présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Voilà, Francine. Je l'appelle Francine parce qu'elle est juste incroyable. Et ben voilà, si on n'avait pas...
Oui, c'est la solidarité. C'est tous ensemble.
Non, si on n'avait pas à se mettre au service d'une ONG, si elle n'existe pas, l'ONG, nous, on ne sert à rien. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine qu'on sorte nos avions. Quoi. Donc, voilà, merci.
C'est moi qui vous remercie. Gérard, ce podcast s'appelle Le Podium.
Oui.
Aujourd'hui, vous êtes en haut du podium, quoi qu'il arrive. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium ?
J'ai parlé de Mohamed Younous, deux prix Nobel. Mohamed Younous, le fondateur du microcrédit Bangladesh, et Mukwege, professeur Mukwege, au nord du Congo, qui répare les femmes. Deux personnages d'exception, quoi. Dans des pays pauvres, où il y a des urgences. Ils montrent l'exemple et c'est la génération qui arrive derrière parce qu'ils forment des jeunes locaux. Je suis pour le développement là, pour ça. Ça, c'est formidable. Voilà. Ce sont des gens que j'aimerais beaucoup que vous rencontriez, que vous interviewez.
Ce serait un honneur. Vous avez une musique que vous adorez quand vous êtes sur votre vélo là,
dans
Paris ?
Il se trouve que je me suis payé mes études en étant contrebassiste de jazz. Donc, j'aime bien le jazz. Je me suis mis à la guitare après. J'ai connu rapidement Souchon et Woolsey. J'ai fait des chansons, mais...
Vous avez écrit des chansons ?
Oui, pas mal, oui.
C'est vrai ?
J'ai pas le talent du tout. Je m'en suis aperçu à temps, quand même. Souchon et Woolsey, c'est des personnes hors du commun, aussi.
Je mettrai une musique de Souchon et Woolsey, si vous
voulez.
Oui, avec grand plaisir. Une que vous aimez particulièrement ?
Je les aime toutes. Belle Île en mer, évidemment. Alors, Belle Île en mer, on va le jouer avec l'orchestre symphonie, les petites mains symphoniques, le 4 octobre au Grand Rex. Une soirée de solidarité pour les jeunes. On viendra en famille, etc. Donc les gens sur le site, ils peuvent acheter leur place dès maintenant.
Donc sur le site d'Aviation Sans Frontières ?
Oui, absolument. Et puis peut-être j'ai 10 ans avec Souchon, parce que c'est un truc dont on avait discuté ensemble, donc je ne suis pas copropriétaire des paroles, mais pas loin.
Super,
voilà.
Merci beaucoup.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant. Je rêve, je vole, si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat.
parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.